Dieu. Alors ce soir, je vais introduire ce message avec trois lectures, et quelque peu longues pour certaines, surtout la première, mais comme à Aubagne, vous êtes les champions de la patience, ça ira très très bien, hein. Voilà. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, avec un récit très connu que l'on trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Le premier livre des Rois, le chapitre 19, et dès le premier verset, nous lisons ceci. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait, à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Japhat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point embrassé, Élie partit de là. » Amen. Élie partit de là. Je vous propose, dans l'Épître aux Romains, de lire quelques versets qui concernent un autre immense personnage de l'Ancien Testament, au chapitre 4, Romains, chapitre 4, les versets 20, 21 et 22. Il s'agit du père des croyants, Abraham, et on va simplement prendre du verset 20 au, 20, au verset 22. Romains 4, verset 20, « Il ne douta point, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. » Et puis, on termine avec un retour sur notre texte de dimanche avant-hier. C'est le texte qui est le fil conducteur de cette courte série de messages. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Et on va lire ensemble au verset 1 déjà, des paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et au verset 12 de ce même chapitre, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai annoncé dimanche matin le thème qui est dans mon cœur et que nous prendrons quatre réunions pour le développer d'une façon paisible et le plus complète possible. Ce thème concerne nos troubles, et on a intitulé cette série de messages « Le Seigneur veut soigner nos troubles ». Et je faisais remarquer dimanche que cette parole que Jésus adresse, qui est devenue très célèbre, « Que votre cœur ne se trouble point », ce sont des paroles qu'il a prononcées parce que il a constaté, et les versets qui précèdent dans le chapitre 13 nous le montrent, il a constaté que ses disciples étaient dans un état profondément troublé. Ils avaient le moral à zéro. Certains auraient dit dans les chaussettes, même s'ils n'en portaient pas. Ils avaient un état intérieur complètement désemparé. Ils étaient dans une faiblesse extrême. Et le Seigneur le voit, et comme le Seigneur te voit aussi, le Seigneur me voit. Et rien ne peut, se cacher à son regard. Nous pouvons cultiver une apparence, mais le Seigneur voit mon cœur. Et parce qu'il m'aime, dès qu'il observe l'intrusion du trouble dans mon cœur, alors il me sait en fragilité et il m'adresse cette parole « Que votre cœur ne se trouble point ». Et ce que Dieu ordonne, il le donne. Et quand Jésus ordonne, il va le réaliser, l'accomplir. Et je rappelais rapidement les quatre facteurs qui ont plongé les disciples dans un trouble profond. Sentiment de trahison, quelqu'un d'entre nous me trahira. Sentiment de séparation, je suis avec vous dans quelques jours, et dans peu de jours, vous ne me verrez plus. La question angoissante par excellence, pourquoi Pierre dit, mais pourquoi? Pourquoi? Ce qui exprime l'incompréhension, et je disais que l'incompréhension, au sens biblique, ce n'est pas une incapacité intellectuelle. Incompréhension, c'est inacceptation. Quand, comprendre, c'est prendre avec soi. Ne pas comprendre, c'est refuser. Il y a tout en Pierre et chez ses collègues, naturellement, se refusait. Il y avait une réfraction, un rejet de ce que Jésus leur annonçait de sa disparition toute prochaine. Et puis, quatrième facteur, le reniement. Il dira à Pierre, mais tu ne laisseras même pas le coq finir son funeste chant, hein, que tu m'auras renié trois fois. Le reniement, que je paraphrasais sous le terme du rejet, un reniement, c'est un rejet, et je disais que nous passerons tous par l'une ou toutes de ces situations, que c'est terrible, le fait d'être trahi, ça me porte un choc terrible, une perte de confiance, je reprends ma confiance, je m'enferme, je me remets en repli, je me mets sur une défensive et je me dis, avec celui-ci, celle-là, c'est fini, n'est-ce pas? Je ne lui donnerai plus ma confiance. La trahison, on passera tous par ce chemin sur lequel Christ nous a devancés, il a connu ces choses avant nous et nous les connaîtrons et forcément, ça engendrera en nous des troubles. Et le Seigneur va intervenir, et je disais que ce verset, c'est comme l'intitulé général de l'ordonnance du médecin qu'il est, que votre cœur ne se trouble point. Et je disais que dans le chapitre 14, il y a cinq remèdes que Jésus nous propose pour qu'en effet, nous sortions du trouble, que nous en triomphions par sa grâce. Le premier remède, nous l'avons vu dimanche, c'est quand même surprenant, il n'entre pas dans une sorte de dialogue, une thérapie complexe d'un grand psychologue, analysons votre trouble, quand tu étais enfant, tu étais comment? Enfin bon, il n'entre pas là-dedans, mais il nous dit, levez les yeux. Premier remède, c'est l'espérance. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, etc. Je m'en vais vous préparer une place. Vous connaissez ces textes merveilleux. Et c'est le premier remède, mon frère, ma sœur, qui va grandement t'aider à t'extirper de l'emprise de tes troubles et à en vaincre. Eh bien, c'est de nourrir ton âme de l'espérance. L'espérance, synonyme assurance. L'épître aux Hébreux nous la compare à une encre de l'âme. Nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme. Quand l'âme est agitée et qu'il y a des vagues et des creux vertigineux, ce qui va stabiliser mon âme, c'est l'espérance. Et Jean dira dans sa première épître que quiconque possède cette espérance se purifie lui-même. Autrement dit, il se débarrasse de tout ce qui est indésirable, encombrant, envahissant, tout ce qui n'édifie pas. Et je vous disais, moi-même, moi j'ai adopté de tout mon cœur cette attitude parce que c'est celle que Dieu enseigne. Ce qui n'est pas édifiant, j'en veux pas. C'est simple, mais je vous assure, c'est efficace. J'en veux pas. Les petits commentaires, les petites rumeurs, les petites réflexions, les suppositions, les supputations, enfin tout ce que on peut encore dire, mais je n'en veux pas, ça m'édifie pas, moi. Et moi, ce que je veux, c'est les choses qui m'édifient. Faites-moi quelque chose. Amen. C'est ce qui va m'encourager. C'est ce qui va me faire du bien. Moi, j'aime ce qui me fait du bien. Et vous? Alléluia. Amen. Et c'est ça le verbe purifier dans ce verset. C'est, quiconque a cette espérance considère d'un regard dédaigneux tout ce qui est futile et il se purifie de ces choses. Hein. Il évacue, il le met, comme vous faites ça, dans la corbeille. Après, vous faites vider la corbeille. Vous soulagez le cœur. et vous dormirez très bien, vous verrez, hein. La nuit, pas pendant les réunions. Hein. Vous aurez une paix, un épanouissement, parce que votre espérance vous aura donné la bonne attitude de vous débarrasser de tout ce qui serait, de tout ce qui voudrait projeter une ombre sur votre joie, votre bonheur, votre épanouissement. C'est le remède 1, et ce soir, on va découvrir ensemble les remèdes 2 et 3, qui sont reliés entre eux, ils sont reliés entre eux. C'est pourquoi nous avons lu ensemble ces trois versets très courts. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. J'aimerais dire, remède 2, la mission. Remède 3, la promesse. À des disciples qui sont profondément troublés, et après leur avoir donné de lever leurs yeux vers l'espérance, Jésus leur fait un rappel très fort, leur mission. Frères et sœurs, notre Église que nous aimons a une mission. Sinon, ça fait longtemps que notre Dieu nous aurait repris dans sa présence. Hein. Nous avons une mission. Une mission de laquelle l'adversaire de nos âmes aimerait nous détourner et nous donner des os à ronger. Et moi, je n'ai pas envie, je préfère un bon steak plutôt qu'un os. Alors, le Seigneur, à ses disciples troublés, leur rappelle leur mission et en même temps, il sous-entend, si tu demeures dans ton trouble, tu ne seras pas dans les dispositions favorables pour que tu remplisses ta mission. C'est quand même tellement bon de savoir que nous sommes ici pour une mission. Amen. Moi, je sais quel est le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les bonnes œuvres, les œuvres bonnes, celles de Dieu. Ma vie ne consiste pas à tourner en rond, à tâtonner dans un labyrinthe et à aller d'une manière aléatoire, mais je sais ce à quoi Dieu me destine. Et je sais aussi que l'adversaire multipliera ses ruses pour m'en détourner. Ne laisse pas l'ennemi te détourner de ta mission. Et Jésus rappelle la mission. Le prophète Élie, nous l'avons lu ensemble, s'est retrouvé brusquement plongé dans une démission, puisqu'il lâche tout, il rend le tablier de prophète, et il fait une journée de marche dans le désert, belle randonnée, hein. Il est épuisé, cuit comme un œuf au plat, il trouve un genêt, un peu d'ombre, il se couche là, et il fait la prière du suicidaire. Seigneur, suicide-moi, je veux mourir. Vous voyez la prière glorieuse, hein. Il demande la mort. Mais il ne sait pas que son Dieu qui est sur son trône a heureusement un plan bien plus glorieux, hein, qu'une mort lamentable dans le désert, hein, comme un vieux corbeau à la retraite. Et... Non, mais Dieu avait quelque chose d'autre, hein, heureusement. Et quelle délicatesse de la part du Seigneur. Il s'approche et il lui dit, lève-toi, mange et bois. On parlera plus tard, hein, mais... mange et bois. Et effectivement, il ouvre ses yeux et il voit un pain certainement délicieux, une eau fraîche. Il boit, il mange et il se recouche. Son mal était profond, hein. Il se recouche. Mais Dieu est patient. Heureusement qu'il est patient avec nous, le Seigneur. C'est pas vrai? Moi, je vous le dis d'avance, je ne serais pas là. Si Dieu n'avait pas usé de patience à mon égard, je ne serais pas là. Et on peut dire que vous non plus. Heureuse. La patience du Seigneur, c'est notre salut. heureusement, qu'il revient. Il revient. Et il répète le même conseil affectueux, lève-toi, mange et bois. Et il ajoute, car le chemin est encore long pour toi. Et là, c'est le commencement de la méditation. Dieu est en train de dire à Élie, tout n'est pas fini pour toi. Il y a un chemin encore pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tout n'est pas fini pour toi. Que la mission continue. Que les projets de Dieu pour ta vie veulent suivre leur cours, même si, d'une manière ou d'une autre, tu t'es retrouvé dans un état plutôt démissionnaire, tellement ton découragement est fort. Le Seigneur veut travailler à te sortir de ce trouble profond en te rappelant ta mission. Nous avons une utilité, nous avons une mission. C'est quand même merveilleux que le Seigneur qui aurait pu tout faire parfaitement sans nous ait décidé de nous introduire dans sa mission. C'est pas merveilleux, ça? C'est extraordinaire. Moi, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi moi? Je sais pas. C'est un mystère. C'est la sagesse de Dieu, sa volonté souveraine, que nous n'avons pas à commenter ni à examiner comme cela, simplement à croire, à recevoir et à entrer dans ce plan divin pour notre vie. Là où le diable voudrait te dire c'est terminé pour toi, le Seigneur te dit prends courage, lui c'est le menteur, j'en ai pas fini avec toi. Gloire à Dieu, ton histoire ne se terminera pas dans un désert sous le genêt. Mais j'ai encore un plan pour ta vie, j'ai des choses. Et c'est ce que le Seigneur, délicatement, va s'employer à expliquer à Élie. D'abord, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment à la place où Dieu le voulait. Alors, il vide son sac. Dieu lui dit, maintenant, allez, sors de ta caverne, que nous puissions sortir aussi de la nôtre. La caverne sombre, nos idées noires, etc. Et là, à l'entrée de la caverne, Dieu lui redit la question « Que fais-tu là ?» Et il vide à nouveau son sac. Et puis la Bible nous dit que le Seigneur vient et il est précédé par trois spectaculaires manifestations, mais que lui-même n'était pas dans ces manifestations. La Bible nous dit qu'il y a eu ensuite un murmure doux et léger. Alors, moi je ne suis pas du tout un expert, mais des spécialistes dans l'hébreu, etc., clairement, on retranscrit cette expression « un murmure doux et léger » par l'expression « une minute de silence ». Parce qu'il y a ces trois mots « voix, silence, minute » dans le texte hébraïque. Ça équivaut à une minute de silence. Ben moi, je pense que quelquefois, il y a des minutes de silence qui sont salutaires. Des minutes de silence. Tous les bruits parasites se taisent. Les cris de tes émotions exacerbées se taisent. Quelquefois, dans les visites pastorales, nous faisons ce constat. Nous voudrions apporter un conseil du Seigneur, mais la personne n'est pas à l'écoute. Et elle parle, elle parle, elle parle. Et quand vous trouvez une fraction de seconde pour mettre le commencement d'un verset biblique, vous voyez très bien qu'elle ne vous écoute pas, elle est déjà en train de préparer son argument. Eh bien, pour permettre au Seigneur de te sortir de ton trouble, il faut faire silence et prendre en considération l'importance de ce qu'il a à te dire. Gloire à Dieu. Et ce que Dieu a révélé à son prophète, c'est ce que je disais tout à l'heure, Élie, tu penses que tout est fini, mais tout n'est pas fini. Je n'ai pas renoncé à me servir de toi encore, encore. Alors, vite, 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 Élie, reprends ta corne d'huile. qu'elle soit bien pleine d'huile, et va et reprends ton chemin. J'aimerais adresser ce soir ce message de tout mon cœur à chacun d'entre nous, moi je m'inclus dedans, va et reprends ton chemin, mais pas les mains vides, avec cette corne pleine de cette huile qui symbolise la merveilleuse onction du Saint-Esprit. Va, et voici ta feuille de route. Tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, et nous savons très très bien que toutes ces étapes successives par lesquelles Élie est passé et qui ont été marquées de la gloire de Dieu, ça a fini par le Jourdain qui s'est coupé en deux, un franchissement prodigieux, et ça a fini par un Uber céleste qui est arrivé, un char de feu avec des chevaux de feu. Vous vous rendez compte, Élie, dans son trouble, voulait mourir dans le désert, mais Dieu avait beaucoup mieux quand même. C'est quand même mieux, hein. Un char de feu qui arrive, les chevaux de feu et qui arrivent, et Élie monte sur ce char et il ne voit pas la mort, il est enlevé dans les airs. Voilà ce que Dieu veut pour toi, pour moi, pour sa chère Église. En attendant le char de feu, nous avons une mission. Seulement si nous avons en nous un état de trouble et que nous nourrissons nos troubles, nous ne serons pas dans les dispositions d'efficacité pour remplir notre mission. La mission, elle est merveilleuse. La mission, elle est d'une urgence prioritaire. Il s'agit pour nous de faire briller la lumière du salut en Christ dans une société plongée dans le désespoir. Quelle mission ! Quelle mission! Ah, je prie pour que là où tu travailles, tu sois cette lumière. Tu remplisses ta mission. Brille, brille. Brille de la lumière de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je prie pour que, au sein de ta famille, tu sois cette lumière. Ta mission, c'est de briller dans ta famille. Et c'est d'amener au salut toute ta famille. Alléluia. En croyant dans le miracle du Seigneur. Ta mission, c'est d'être un instrument tellement malléable entre ses mains que dans un moment non prévu, non préparé par toi, il y a une rencontre, un événement entre guillemets fortuit, mais prévu par Dieu, une rencontre à l'arrêt d'un bus, au sortir du boulanger, que tu sois un instrument de salut. En faisant leur cure dans une ville du Puy-de-Dôme à Châtel-Guyon, un couple chrétien, ils étaient là pour 3 semaines de cure, et lui, le matin, il est là maintenant dans un kiosque pour prendre le journal, le quotidien. Au moment où il prend le journal, un autre pensionnaire prend le même journal. Il se retrouve comme ça. Ça a été l'élément qui a déclenché un processus de salut et de conversion. À partir de là, le chrétien et l'autre qui ne l'était pas ont fait connaissance, se sont invités à prendre un café croissant, le chrétien a commencé à laisser briller sa lumière, mais l'autre était un quadragénaire, opéré 3 fois du cancer, il était à la veille d'une banqueroute commerciale. Il y avait à la maison une tension insupportable et le chrétien a fait briller sa lumière. Il a rendu témoignage du miracle que Jésus a le pouvoir de faire pour restaurer les couples, pour secourir dans les moments de détresse. Et l'autre, avec son épouse, ont écouté, reçu, et dès qu'ils sont rentrés de leur cure dans la ville du Puy-en-Velay, ils m'ont laissé leur carte, je leur ai téléphoné, ils sont venus, ils ont été bouleversés par l'Évangile, j'ai eu le bonheur de les baptiser, ils sont entrés dans le salut. Pourquoi ? Parce que dans un établissement de cure, il y avait un chrétien et son épouse qui ont laissé briller leur lumière. Que Dieu nous utilise comme des porteurs de lumière. Notre mission, c'est de partager l'espérance en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, et lorsque nous l'aurons terminé, cette glorieuse mission, eh bien nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. La mission, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, et la promesse, remède numéro 3, la promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Promesse. Je veux veiller, pour mon compte personnel, à toujours établir ma foi sur les promesses de Dieu. Il n'y a rien de plus fiable que les promesses de Dieu. Alors nous avons lu l'exemple d'Abraham, le témoignage que lui rend l'Épître aux Romains. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors bien sûr, ce sont trois versets qu'on peut lire en 10 secondes. Mais quand on lit la vie d'Abraham, entre l'Épître aux Romains, il ne douta point par incrédulité, et tout le récit de la Genèse, ben on s'aperçoit que Abraham, ça n'a pas été aussi facile que ça. Hein. Il a eu des moments de fléchissement. Il a eu des moments où, en voyant ses rides se creuser, les années passées et toujours rien de concret, en entendant sa femme qui, au lieu d'encourager sa foi, Pépé, prends courage, non, elle en rajoutait encore un peu, n'est-ce pas? Il a eu besoin, tout au long des 25 années qui se sont écoulées avant que la promesse ne s'accomplisse, il a eu besoin que le Seigneur apporte sa médication, un remède, un encouragement, un rappel de la promesse. Ce soir, Dieu veut te rappeler ses promesses. Et il veut te rappeler aussi que ses promesses sont oui et amen. Amen. Le petit bank oui n'existe que dans le dictionnaire des Normands, mais pas dans la Bible. Promesses de Dieu sont oui et amen. Et voyez-vous, frères et sœurs, je veux veiller à me replacer dans cette position d'une foi établie sur les promesses de Dieu. Je prends un ou deux exemples concrets. Lorsque nous autres pasteurs nous imposons les mains aux malades, honnêtement, et je dirais malheureusement, il faut admettre que tous les malades ne sont pas guéris. Oui ou non? Tous les malades ne sont pas guéris. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est la promesse. Et ce n'est pas parce que j'ai prié pour un cher ami et qu'il n'a pas été guéri que je vais cesser de prêcher le Dieu qui guérit. Parce que Dieu guérit. Faites-moi là aussi quelque chose. Amen. Dieu guérit. Sa promesse est sûre, elle est certaine, elle est oui et amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que toutes les fois où j'ai témoigné, il n'y a pas eu de conversion automatiquement, que je vais m'arrêter de témoigner. Ce n'est pas parce que il y a eu des échecs ou des échecs apparents dans mon service que je vais remettre en question la crédibilité et la validité des promesses de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ne laissez pas votre foi s'appuyer sur autre chose que les promesses de Dieu. Que votre foi ne s'appuie pas sur les circonstances, sur l'émotionnel, sur ce qui se vit ici, sur ce qui se lit dans certains livres, sur d'autres courants d'influence, mais que votre foi s'appuie sur les promesses de Dieu, car un pasteur fort justement a dit un jour que Dieu n'est engagé envers nous que par ses promesses. Quand il promet, son honorabilité est engagée, sa personne est engagée. Et la bonne démarche pour nous, si nous voulons vaincre de nos troubles, eh bien, c'est de ramener à la place principale les promesses du Seigneur. Moi, quand j'entends Jésus dire « Je le ferai », ça me suffit. Et toi ? Aussi ? Ça me suffit. Il est impossible, Seigneur Jésus, qu'il en soit autrement. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il est le Dieu de lumière, le Dieu de vérité. Et j'ai besoin de conforter ma foi dans les promesses de Dieu. Je dis ces choses parce que nous n'ignorons pas les desseins du diable qui consistent à ébranler la foi dans les promesses de Dieu. Et quelqu'un peut-être ce soir parmi nous a une foi vacillante. Ton assurance dans les promesses de Dieu est comme violemment remise en question. Mais c'est naturel. Jérémie le prophète, au fond de son épreuve, n'a-t-il pas dit à l'Éternel, « Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse ?» Voyez, sa foi est passée par des crises. Mais, comme Abraham, nous pouvons être fortifiés dans notre foi et toujours confirmer notre attente dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Je veux faire partie de tous ceux dont l'Épître aux Hébreux parle en disant tous ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent les promesses. Amen. La foi et la persévérance, nous obtenons les promesses. Alors, c'est peut-être un petit peu une expression familière, mais lâche pas le morceau. Amen. Lâche pas le morceau. Mets-toi devant le Seigneur. Et comme Jacob, dis-lui, je te laisserai pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu aies accompli tes promesses. Amen. Il y a des exaucements qui se font assez rapidement, d'autres qui nécessitent la persévérance. La persévérance. Et quand Dieu, sur son trône, voit la persévérance de son enfant, quelle gloire, quelle joie, quel honneur, quelle satisfaction, quelle fierté de la part de Dieu vis-à-vis de son enfant. Alléluia ! La persévérance. Que le Saint-Esprit vienne fortifier ta persévérance ce soir. La foi et la persévérance nous amènent à obtenir les promesses de Dieu. Alléluia. Il y a des tas de témoignages bouleversants qui confirment cette vérité biblique. Est-ce que quelqu'un voudra dire ce soir en prière de conclusion, Seigneur, augmente ma persévérance. Pardonne-moi d'avoir vacillé quelque peu, mais raffermis ma foi, Seigneur. Merci de me rappeler ce soir que tes promesses sont certaines, de me rappeler le « je le ferai » que tu nous as laissé en héritage. Amen. Dieu le fera.